Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Ah oui, c'est le début de saison. Ça recommence les vilaines nouvelles vilaines histoires. En fait, nouvelles parce que j'avais fait une petite pause. Mais il n'y aura pas forcément grand-chose qui changera. J'aime vous raconter des histoires que je découvre dans les livres, que je découvre dans les écrits, que je découvre sur le net. Il y aura aussi, un peu comme avant, des interviews sur des sujets sociétaux, peut-être, je ne sais pas, des fictions politiques, peut-être ça dépendra des événements, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais en tout cas, je vais essayer de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Aujourd'hui, nous retrouvons Kenneth Cook. Kenneth Cook, j'avais fait une émission l'année dernière avec le Koala Tueur, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, peu importe, vous allez découvrir aujourd'hui. La première nouvelle s'appelle Actif Liquide. Sans trop m'avancer, je crois pouvoir me targuer d'être le seul écrivain en Australie, voire au monde, à avoir administré un lavement à un pachyderme. L'éléphante, qui s'appelait Annie, se trouvait dans la ferme de mon ami Alan Trevor, au nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Alan s'occupait d'elle pendant les congés d'un surcambulant. De taille moyenne, paisible et docile, l'éléphante ne faisait rien d'autre que manger d'énormes quantités de foin et de fruits un peu pourris. Elle avait un visage gris et ridé, avec de doux yeux marrons aux longs cils. Alan avait monté un petit business parallèle pour vendre les excréments de l'animal comme engrais, car son fumier s'était avéré particulièrement efficace. C'est avec une certaine fierté qu'il me montra plusieurs sacs de crottes d'éléphant prêts à la vente.
« Elle en produit des tonnes, » m'expliqua-t-il. « Si ça continue, je vais devoir les déclarer au fisc comme actifs. »
Le terme resta, et il se référait toujours à ses actifs pour parler du fumier. Jusqu'au jour où les crottes cessèrent de tomber.
« Voilà 2 jours qu'il ne s'est rien passé, » dit Alan. « Il y a une tonne d'actifs bloqués dans les conduits. »
On appela le vétérinaire de toute urgence. Quand il arriva, Annie avait renoncé à manger et elle restait debout, visiblement mal en point, le ventre de plus en plus ballonné. Son aspect devenait comique. On aurait juré un ballon en forme d'éléphant sur le point de s'envoler. Alan, qui avait un penchant pour l'humour noir, avança qu'elle allait peut-être monter au ciel pour de bon
et que ce serait un moyen de se débarrasser du corps. Les autorités risquent de s'y opposer. La mise en orbite de plusieurs tonnes d'éléphants est sans doute considérée comme dangereuse.
Les yeux mélancoliques d'Annie se tournèrent vers Alam, qui eut le tact de changer de sujet. Le veto, qu'il connaissait bien, était un quadragénaire trapu, vigoureux, épais et barbu. Il examina Annie prudemment.
« Alors, comme ça, pas de crotte depuis 2 jours ?»«
Oh, bah, 2 jours au moins, » répondit Alan.
Effectivement, notre dernière vérification remontait à 2 jours. Après une longue réflexion, le veto nous dit
« C'est la première fois que je soigne un éléphant, mais j'imagine que c'est pas très différent des bovins. »
Il s'approcha d'Annie et pressa fort la panse ballonnée. Annie lui tapota tendrement sur l'épaule avec sa trompe.
« C'est un peu comme sculpter un dirigeable, » observa le veto. « Quelqu'un sait-il combien d'estomac a un éléphant ?»
Personne ne savait.
« Bon, elle a manifestement une occlusion intestinale, mais Dieu seul sait à quoi c'est dû. Un nœud dans les intestins, une tumeur ou un bon vieux cas de constipation. Impossible de le savoir. »
Et tu penses qu'elle est gravement malade ? Demanda Alan.
Oh, elle est prête à s'envoler. S'il s'agissait d'une vache, je dirais que c'est à cause du ballonnement et j'essaierais de la désenfler en lui perforant l'estomac, mais...
Il désigna l'énorme boursouflure qui nous surplombait tous et haussa les épaules.
Tu crois qu'elle est en danger ?
S'enquit Alan.
Oh, ma foi, je lui ne donne guère plus d'une demi-heure. Tu vois, ce qui se passe, c'est qu'elle a une grande quantité de matière végétale à l'intérieur du corps, mais rien ne sort. Les matières fermentent et produisent des gaz. Ses intestins forment un ballon gonflé à bloc qui pousse contre ses organes vitaux. L'un d'eux finira forcément par céder, à moins qu'elle n'arrive plus à respirer. Ben, si on pouvait la faire éructer, ça la soulagerait. Mais puisque rien ne sort de l'autre côté... Mais nom de Dieu, comment fait-on pour faire rôter un éléphant ?
Nous étudiâmes la question en vain.
Je vais passer un coup de fil à un collègue du zoo. Il pourra peut-être nous renseigner.
Le vétérinaire partit téléphoner. Tandis qu'Alan et moi observions tristement Annie sans dire un mot. Elle était à présent si gonflée qu'elle semblait incapable du moindre mouvement. Et son apparence n'avait jamais été si proche de celle d'un énorme ballon de baudruche ou d'une peluche aux des proportions gigantesques. Elle affichait tous les signes de l'explosion imminente. Et nous eûmes un mouvement de recul instinctif pour éviter une éventuelle déflagration cataclysmique. Le veto revint d'un air empressé, mais l'air absolument ravi.
Parfait. Nous allons lui administrer un lavement.
Une décision qui ne suscita pas un enthousiasme délirant de notre part. Alan rompit le bref silence en demandant
« Et comment on s'y prend ?»
Le veto examina Annie en se frottant les mains.
« Bon, bah, trouve-moi ton plus gros récipient d'eau, un bidon de 200 litres, ce serait idéal. Je le veux bien propre, rempli d'eau. » Et il me faut aussi 20 litres de détergent biodégradable. J'ai aussi besoin d'une pompe à main ou à pied sur laquelle je puisse attacher un tuyau de 20 ou 30 mètres. Tu peux me trouver tout ça ?
Nous étions silencieusement absorbés à imaginer la mise en place du dispositif. Puis Alan réagit.
Ah oui, je peux te trouver tout ça.
Sur quoi il partit trouver tout ça. Les quatre fermiers voisins qui avaient eu vent de nos soucis nous rejoignirent pour rigoler un bon coup. Ils se placèrent à une dizaine de mètres et, depuis leur périmètre de sécurité, observèrent la scène avec le plus vif intérêt. Pendant ce temps, Alan, le veto et moi-même nous placions derrière Annie avec un bidon d'eau plein d'eau savonneuse et une pompe à pied efficacement reliée au tuyau de plastique. Désigné au pompage, j'avais l'inconvénient malencontreux d'être placé plus ou moins directement derrière Annie et pas très loin d'elle. On m'ordonna de pomper pour tester le mécanisme et le tuyau projeta un jet d'eau satisfaisant.
« Bien !» annonça le veto. « Je vais donc l'introduire. C'est une bête docile, n'est-ce pas ?»«
Je vais lui tenir la tête, » s'empressa d'offrir Alan. Pour être sûr qu'elle bouge pas.
Bon, tout est prêt. T'es sûr qu'elle va supporter l'opération ?
Ah ben, c'est une première, hein. Mais t'en fais pas, je la tiens.
Si l'envie avait pris à l'éléphant de protester, Alan aurait été aussi efficace qu'une sardine essayant de bloquer une baleine, mais...
« C'est parti !»
dit le veto. Au début de l'opération, Annie se retourna et nous lança un long regard d'extrême reproche. Puis elle reprit sa position initiale en laissant pendre la tête jusqu'à ce que sa trompe traîne par terre. Notre éléphante était complètement atterrée.
Le souci,
précisa le veto,
c'est que je n'ai aucune idée de la longueur d'un gros intestin d'éléphant. « Je vais introduire le tuyau jusqu'à ce qu'il s'arrête, en espérant ne pas faire de dégâts. Mais j'imagine que ces bêtes-là ont les boyaux solides. »
Il enfonça vigoureusement le tuyau, qui s'engouffra sur une très grande longueur. Je pompais. Annie gonflait. Le niveau d'eau du bidon chutait rapidement et je commençais à avoir mal à la jambe. Quand 10 mètres de tuyau eurent disparu, le veto s'arrêta.
Rien pour l'instant. Continue à pomper. Nous verrons si nous pouvons la laver à grande eau.
Je pompais. Annie enflait toujours dangereusement. Le bidon était à moitié vide, il y avait une énorme quantité d'eau à l'intérieur d'Annie. Mais à ton avis, que va-t-il se passer de manche-déj' un peu plus tard ?
Oh bah l'inévitable ! Sois prêt à esquiver le coup !
Je m'y préparais depuis un moment déjà. Je jetais un coup d'œil jaloux aux quatre fermiers voisins qui ricanaient comme des bossus à 5 ou 6 mètres derrière moi.
« Ok, ok, on continue !»
Le tuyau reprit sa pénétration. Je pompais, Annie gonflait, le bidon était presque aux 3/4 vide. Ma jambe droite me faisait atrocement mal.
« Le souci, C'est que je peux me tromper. Si l'occlusion n'est pas soluble, son état ne fera qu'empirer. Mais je ne vois pas d'autre solution. Continue à pomper.
Je continuais donc de pomper. Annie continua de gonfler. La tension augmentait gravement. Il fallait forcément qu'il se passe quelque chose. Et il se passa quelque chose. Un bruit comme un déchirement de toile d'une force insupportable, sans interruption, éclata comme un grondement furieux d'artillerie lourde. Je me jetai de côté et atterris sur le dos. Le ciel s'assombrit devant mes yeux. Un nuage noir bloquait le soleil. D'une roulade, je déguerpis et me retrouvai à quatre pattes. Un orage noir de 10 mètres de long et de 5 de large obscurcissait ma vue. Le tonnerre qui l'accompagnait m'assourdissait. C'était stupéfiant. Je fus encore plus stupéfait de voir émerger 4 silhouettes brunes et dégoulinantes. Elles titubaient les mains sur le visage pour s'essuyer les yeux. Les 4 fermiers hilars avaient mal mesuré leur périmètre de sécurité. Le veto débordait de joie.
« On a gagné ! On a gagné !»
Je ne voyais que ses jambes. Le reste de son corps était de l'autre côté du nuage noir. L'affaire prit près de 2 minutes. Quand elle fut conclue, Annie, sensiblement rétrécie et visiblement soulagée, avait déjà commencé à brouter. Le tuyau, lui, s'était automatiquement dégagé. Les fermiers se roulaient dans l'herbe pour tenter de se nettoyer. Alan riait comme une clé à molette. Le veto se vantait d'avoir guéri Annie. Ce n'était qu'une simple occlusion, rien de grave, pas de quoi s'inquiéter. Annie et Alan était en proie à un fou rire hystérique et répétait sans cesse la même phrase. Que disait Alan ? Je me relevai et tendis l'oreille.
Oh, j'ai récupéré mes actifs liquides ! 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 J'ai récupéré mes actifs liquides ! Mes actifs liquides !
Et voilà, c'était la première histoire pour aujourd'hui. Ah ben c'est spécial, hein, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire un lavement à une éléphante, c'est sûr. Je dois dire que M. Kenneth Cook a vécu des expériences fort intéressantes dans sa vie. Donc ça va être une deuxième histoire de Kenneth Cook. Qui va nous entraîner dans un monde tout aussi inhabituel et étonnant et qui a pour titre quelques spécimens intéressants. Je chassais les papillons dans la péninsule de Cap York lorsque je faillis assister de bien trop près à mon goût à la mort violente d'un être humain. J'attrapais les papillons et tous les autres insectes que je trouvais pour un ami collectionneur professionnel. Il me versait une somme modique pour les spécimens que je lui envoyais. Enfin, un montant si dérisoire en fait que, selon mes calculs, si je comparais mes frais à mes rentrées d'argent, chaque spécimen me coûtait environ 20 dollars. Mais c'était un bon prétexte à mes balades dans le bush. Car à la première question que tout le monde vous pose dans le Nord, qu'est-ce que vous faites ? Ben, il est plus acceptable de répondre « je recherche des insectes » que « j'écris des livres ». C'est pas beaucoup plus respectable, mais un petit peu plus, quoi. Un beau matin, alors que j'avais installé mon camp dans un bosquet de pandanus à une cinquantaine de kilomètres de Wepa, j'entendis un bruit de moteur. Un quart d'heure plus tard environ, un 4x4 de la police descendit la piste. Le chauffeur se dirigea vers moi dès qu'il aperçut notre camp. Enfin, rien d'habituel à ça, hein. Tout le monde se parle sur la péninsule. Trois hommes descendirent de la voiture. Tout d'abord le policier, bel homme, la trentaine, impeccablement vêtu de son uniforme de brousse, short, chemise et chapeau à large bord. Les deux autres, à peu près du même âge, étaient dépenaillés, louches. Et un, très bien bâti, n'avait pas l'air commode. Sous une épaisse chevelure brune, sa barbe était noire et ses yeux durs et sombres. L'autre était mince, presque chauve, plus ou moins bien rasé, avec des yeux durs, humides et bleus. « Salut !» dit le policier. « Salut !» répondis-je. « Salut !»« Salut !» dirent les deux civils. « Ben, salut !» leur dis-je. Suivit une pause inévitable, longue et contemplative. « Fait chaud !» dit le policier. « Oui !» répondis-je, avant de m'empresser de souligner « Ouais !» Pour cette époque de l'année !» ajouta-t-il pour se justifier. « Ouais !» approuvai-je. Une autre pause, assez longue. Puis le policier aborda la question qui le préoccupait, visiblement gêné par l'inconvenance de sa précipitation.
Vous n'auriez pas vu un type à pied ces deux derniers jours ?
Bah, j'ai vu un mûri sur la plage avant-hier.
Je regrettais immédiatement mes paroles, car il me vint à l'esprit que le policier participait à une chasse à l'homme et que je n'avais aucune intention de jouer les indiques. En tout cas, pas avant de savoir pourquoi l'homme était poursuivi.
Non, non, c'est un blanc,
dit-il.
À pied ? M'étonnai-je.
On ne voyait jamais de blanc à pied dans cette région.
« Ouais !» dit le policier. « Probablement. »«
Ah bah non, j'ai vu aucun blanc, ni à pied, ni autrement. Qu'a-t-il fait ?»«
Oh bah rien, il s'est perdu, c'est tout. »« Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ?»«
J'attrape les insectes. »«
Ah !» Vous en trouvez beaucoup ?
Ouais.
Tant mieux.
Une autre pause, très longue.
Vous avez vu des crocodiles ?
Ben oui, quelques-uns. Dans les ruisseaux, vous voulez dire, des petits?
Oh ben, j'en ai vu un de 2 mètres, rétorquai-je, piqué au vif.
Oui, d'accord, mais des bêtes d'eau douce. Vous n'avez pas vu un gros croco d'estuaire, par hasard?
Ah non, mais je me suis pas beaucoup approché de la mer.
Oh, ils vont loin à l'intérieur des terres, vous savez. Vous devriez faire attention en camping.
Ils ont déjà emporté quelqu'un?
Le policier arracha une touffe d'herbe et la mâchouilla.
C'est peut-être ce qui est arrivé au type qu'on cherche. Il campait avec ses potes.
Il expliqua ça en désignant les 2 civils.
Il est parti se promener tout seul. Il n'est jamais revenu. Et depuis, aucun signe de vie.
Et ça s'est passé où?
Oh, à 1/2 heure d'ici, en suivant la piste. En tout cas, si vous le voyez, dites-lui qu'on le cherche.
Bien sûr. Ils s'en allèrent.
Et je repris ma chasse aux insectes tout en surveillant les crocodiles du coin de l'œil. J'avais toujours pensé qu'ils restaient dans l'eau ou à proximité, qu'ils n'attaquaient que les baigneurs ou le bétail qui se désaltérait. L'idée de crocodile sillonnant la brousse me paraissait aussi improbable qu'inquiétante. Je me dis alors que le policier m'avait peut-être fait marcher. Il ne faut s'étonner de rien dans le Queensland. En fin d'après-midi, l'agent, qui s'appelait Jacques, me rendit une nouvelle fois visite, mais sans les civils.
Vous l'avez trouvé?
Ben non. Vous avez vu personne?
Non.
Jacques s'accroupit sur une jambe, comme le font tous les habitants au nord du tropique du Capricorne. J'essayais de l'imiter, mais la position m'était si inconfortable que je m'assis par terre.
On a trouvé ses vêtements.
Ses vêtements?
Oui. Chaussures, chaussettes, pantalons et chapeaux. Le tout bien empilé sous un arbre. Il a dû les enlever et les poser là.
Mais pourquoi?
Il a sans doute voulu se rafraîchir dans le ruisseau. Il y a un peu d'eau à cet endroit, assez pour se tenir assis.
Et quelle conclusion en tirez-vous?
Le croco l'a peut-être eu.
Cette pensée pesa lourdement entre nous.
Bien sûr, il y a peut-être une autre explication.
Comme quoi?
Le policier réfléchit.
Ben, il veut peut-être se faire oublier, disparaître, faire croire à tout le monde qu'il s'est fait manger par un croco et qu'il s'est perdu.
Mais pourquoi ferait-il ça?
Jacques haussa les épaules.
Allez savoir, ça arrive assez souvent, un gars en cavale ou qui veut s'éloigner de sa femme ou autre chose, c'est pas rare. Mais il finit toujours par ressurgir. Si on peut l'inculper, vous savez...
De quoi?
Bah, on travaille l'ordre public. On peut s'attendre à ce que des types comme moi sillonnent le pays à la recherche de gens qui sont ni perdus ni morts.
Ouais, sans doute que non, oui.
Ou alors, il s'est peut-être fait descendre, hein. L'idée m'a traversé l'esprit hier, mais j'en suis pas si sûr maintenant.
Mais qui l'aurait descendu?
Bah, ses potes, pardi.
Jacques semblait surpris que j'aie posé une question aussi évidente. Je revis les yeux durs des potes.
Mais pourquoi? Il haussa encore une fois les épaules.
« Oh, ça arrive, une dispute pour de l'argent, pour une femme, allez savoir, ça arrive. »«
Et qu'est-ce qu'ils font dans le coin ?» Nouveau haussement d'épaules.
« Soi-disant qu'ils pêchent, mais à mon avis, ils braconnent. »«
Et qu'est-ce qu'ils braconnent ?»«
Des crocos. » Ils sont protégés, vous savez, leur peau vaut une fortune.
Mais dans ce cas, vous ne pensez pas qu'ils ont descendu leurs pattes ?
Si ? Oh non, ces habits étaient trop bien empilés. Ces deux types n'auraient jamais réussi à les enlever si proprement sur un cadavre. De toute façon, ils ne sont pas assez futés pour contacter une fausse piste de ce genre, non. À mon avis, il s'est vraiment fait bouffer par un croco.
Vous pouvez pas faire grand-chose dans ce cas.
Sauf que je serais obligé de récupérer le croco.
Comment ?
Ah ! Je vais suivre les traces jusqu'à ce que je le trouve. Ça doit être une belle bête.
Mais quelle est l'utilité de tout ça ?
Ben, c'est pour retrouver le corps, s'il n'est pas encore digéré. Après, je dois abattre le croco.
Mais pourquoi ? Vous venez de dire qu'ils sont protégés. N'importe quel gros crocodile est dangereux. C'est pas parce qu'il a tué un homme que celui-là l'est plus qu'un autre.
Non. Mais on les abat systématiquement s'ils ont tué quelqu'un, quand on les trouve.
Aussi logique que d'abattre un arbre, parce qu'une de ses branches est tombée sur quelqu'un, à mon sens. Mais je décidais d'éviter le débat.
De toute façon... Il s'est peut-être simplement perdu, ou il traîne encore dans le bush, ou alors il s'est barré.
Mais qu'est-ce que vous comptez faire ?
Moi, je vais retourner au poste, voir ce qu'en pense le patron. Allez, à plus tard. Si vous le voyez, n'oubliez pas de lui dire que je le cherche. Vous le reconnaîtrez facilement, il sera nu comme un ver. À plus tard.
Au revoir.
Il me rendit une nouvelle visite le lendemain matin sous prétexte de me demander si je n'avais toujours pas vu le disparu. Mais en réalité, je crois que c'est parce qu'il appréciait ma compagnie. J'avais plus ou moins épuisé les nouveaux spécimens de la région, mais j'avais envie de rester dans le coin pour connaître le fin mot de l'histoire.
Mon patron trouve que l'affaire est un peu louche. Il veut que je continue à feuiller et que je découvre ce qui est arrivé à ce pauvre type.
Mais est-ce que votre patron penche pour la thèse du crocodile ?
Bon, il dit qu'on doit trouver des traces. Si c'est le cas, c'est bien possible. Faut dire que le ruisseau où on a retrouvé ses affaires est tout petit, on peut l'enjamber. Si le croco l'a eu quand il était assis dans l'eau, il devrait y avoir un peu de sang et d'autres trucs sur le bord. À moins que l'eau ait tout nettoyé. Mais si le croco l'a eu hors de l'eau, il doit rester des traces jusqu'à ce que les fourmis fassent le nettoyage. Dommage qu'il n'ait pas porté ses vêtements. Il reste toujours quelque chose d'un macabé habillé.
Les crocos emportent beaucoup de gens par ici ?
Oh non ! Quelques gamins mûris, quelques vieux. Mais les gens meurent d'un tas de façons. Et les chiens, les oiseaux, les fourmis et les cochons tardent pas à nettoyer, hein. C'est pas rare que les os disparaissent complètement, mais il reste presque toujours un bout de vêtement. On a tous ceux de notre homme de vêtements, mais il les a sans doute enlevés tout seul, alors
Il a même mis sa montre dans la poche de son pantalon.
Mais comment un crocodile a-t-il pu l'attraper hors de l'eau ou dans un petit ruisseau? Il l'aurait tout de même entendu venir, non?
Oh non! Ils sont aussi rapides qu'un cheval au galop sur les petites distances. Une fois, sur la côte, j'en ai vu un bondir de l'eau et poursuivre une grosse vache. Elle n'avait pas la moindre chance de s'en tirer. Elle l'a vu s'approcher d'elle et a essayé de s'enfuir au galop. Mais il l'a terrassée et traînée par une patte, là, des pattes arrière, jusque dans l'eau. Vous avez déjà vu courir de gros lézards? Eh ben, un croco est aussi rapide, mais seulement sur une petite distance.
Il se roula une cigarette.
De vraies saloperies, ces crocos. Surtout les gros. Je sais pas pourquoi c'est une espèce protégée. J'ai failli marcher sur un l'an dernier. Tenez, c'est une autre de leurs méthodes. Ils restent là, raides comme des bouts de bois. On trébuche et blanc, c'est fini. Heureusement, le mien avait pas faim. Il s'est contenté de se dresser sur ses pattes arrière et de mugir comme un taureau. Il m'a foutu la trouille de ma vie.
Et qu'est-ce que vous avez fait?
Je l'ai réduit en poussière. Et ils sont une cible facile quand ils se dressent comme ça. Le ventre, c'est la partie la plus tendre. Alors que sur le dos, oh, une balle de 300 toits risque de rebondir si on tire n'importe comment.
On ne sait jamais quel pourcentage croire des histoires qu'on vous raconte sur les animaux dans le Nord. J'en ai entendu des dizaines. De celles de serpents qui poursuivent et réussissent à attraper un homme à moto. De celles qui vous racontent que des buffles qui chargent et renversent des véhicules, en passant par des cochons sauvages d'une taille et d'une férocité inimaginables qui éventrent des chevaux. Cela dit, mon policier semblait s'y connaître en crocodile.
Oh, si vous saviez le boucan qu'ils font quand ils se reproduisent. Ah, abominable. Le mâle passe son temps à vagir. C'est pas comme un accouplement normal. Hein. Il rassemble quelques femelles dans un lagon et il les viole, purement et simplement. Des brutes épaisses. Mais attention, les femelles sont pas plus tendres. Elles pondent. Puis, elles surveillent leurs œufs pendant longtemps et gardent à qui s'approche du nid. Après quoi, elles se barrent et elles s'abandonnent. Le bébé croco brise la coquille en ouvrant le bec et en sifflant comme un jeune dragon. Saleté, hein. Enfin bon.
Il se leva et jeta son mégot dans les cendres du feu.
Je ferais mieux d'aller voir si je peux retrouver celui qui nous intéresse. Le cadavre ou le mec, comme il m'a dit mon patron.
Il revint au milieu de l'après-midi. Et comme j'avais l'impression de mieux le connaître, je lui offris une bière. Il l'accepta, se roula une cigarette, l'alluma, but une gorgée et s'accroupit. Pas de chance ?
Oh si, enfin, si on peut dire.
Vous l'avez trouvé?
On a trouvé ses jambes.
Un silence soudain s'installa dans le bosquet de Pandanus, tandis que ces quelques mots s'imposaient avec une force sidérante. Après avoir longuement digéré la réalité des faits, je ne pus rien faire d'autre que répéter « Trouver ses jambes ?»
Ouais, à quelques minutes de marche de ses habits dans les buissons.
Ouais, je vois. Le sujet était à la fois répugnant et intrigant. Je ne me sentais pas très bien, mais je voulais en savoir plus.
Comment avez-vous retrouvé les jambes?
Oh, j'ai entendu les mouches.
Ah, j'aurais mieux fait de ne pas demander. Jacques, lui, tirait sur sa cigarette.
Oh, je comptais pas en retrouver autant. Normalement, le croco rapporte la proie dans sa tanière ou l'avale tout rond sur place.
Mais c'était donc bien un crocodile?
Ah oui, oui, j'y ai pensé. Mais les jambes étaient pas sciées. On voit très nettement les traces de morsures. Ça devait donc être un sacré bestiau.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis?
Oh, c'est évident. Le pauvre bougre s'est assis dans le ruisseau pour se rafraîchir. Et le croco l'a attrapé. Comme il n'y avait pas assez d'eau pour le noyer. Bah parce que c'est ce que font les crocodiles d'habitude. Ils tiennent leur proie sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Et il a dû partir avec lui à la recherche d'un ruisseau plus profond. Puis il s'est arrêté en route et puis il l'a dévoré.
Les mots étaient presque impossibles à entendre. J'avais du mal à accepter que pendant que je parcourais les fourrés à la recherche de spécimens, ce drame épouvantable s'était déroulé à deux pas de là.
Mais pourquoi laisser les jambes?
Ah, ben j'en sais rien. C'est ce qui me chiffonne, d'ailleurs. Peut-être qu'il l'a pas mangé sur place. Peut-être que le type se débattait et qu'il lui a fallu du temps pour l'achever. J'aurais pas cru, pourtant. L'herbe est aplatie et tassée. Mais maintenant que les fourmis et les oiseaux sont passés par là, on n'a plus beaucoup d'indices.
Mais qu'est-ce que vous allez faire?
Ramener les jambes en ville,
dit-il en pointant le menton vers son véhicule. Et je réalisais alors, pour la première fois, que les restes monstrueux s'y trouvaient.
Et après, j'irai prendre du plastique et chercher le croco.
Je m'autorisais des pauses un peu longues avant chacune de mes répliques. Mais c'était pas grave, car dans le Nord, les conversations sont naturellement lentes.
Il sera facile à trouver?
Oh, normalement, oui. Il n'a pas dû aller bien loin à pas avoir autant bouffé. Il va chercher un trou d'eau et s'y terrer pour digérer. Faut que je le retrouve avant.
J'avais du mal à me représenter l'affaire. Il m'aurait semblé plus convenable de permettre au croco de digérer sa proie plutôt que de récupérer les restes infâmes pour les enterrer. Mais bon, c'était pas mes affaires.
Et vous allez vous y prendre comment?
Oh, je vais suivre les ruisseaux et plastiquer tous les trous d'eau profonde que je trouve. Ça devrait pas durer très longtemps. Inutile d'y passer plus d'une semaine. Il restera alors plus rien à l'intérieur du ventre.
Mais vous y allez tout seul?
Avec des copains. Ça vous dit de nous accompagner? Ça devrait être intéressant.
Chaque fois que je fais quelque chose dont je suis pas très fier, je me rabats sur l'excuse de l'instinct de l'écrivain. Mais c'est probablement une vague curiosité morbide qui me poussa à accepter. Jacques vint me chercher tôt le lendemain matin et nous parcourûmes la piste dans son véhicule. Les deux civils nous attendaient à leur camp et je fus surpris par leur humeur joviale. Je n'avais jamais connu le disparu, mais son démembrement m'avait plombé. Peut-être était-il simplement soulagé d'être dégagé de tout soupçon. Jacques ne fit aucune présentation, il ne les tenait pas en grande estime. Les deux hommes semblaient accepter cet état de fait et restaient discrets. Le policier prit un sac plein de plastique et un gros fusil dans son véhicule. Les civils portaient de vieux fusils de l'armée et de petits sacs, et nous pénétrâmes ensemble dans les broussailles. Jacques et moi entrâmes d'abord, les deux hommes à une certaine distance derrière nous. Cet ordre n'avait pas été délibérément établi, mais j'eus l'impression qu'il obéissait à la volonté de Jacques. Par son incroyable présence, il avait établi une atmosphère où il était l'expert. J'étais l'observateur invité et les deux autres des participants tout juste tolérés en raison de leur implication dans l'affaire.
« Voici l'arbre où on a retrouvé ses vêtements. Et voici le ruisseau. »
Il me montra un filet d'eau qui s'échappait des buissons et dont le lit étroit traversait une clairière.
« D'après moi, il s'est assis là pour se rafraîchir. Le croco a surgi des fourrés et l'a emporté. » À moins que le croco ait été là depuis le début et que le pauvre type lui soit tombé dessus. Allez, je vais vous montrer où nous avons trouvé les jambes.
Nous poursuivrons notre route. Mais vous craignez pas que le crocodile soit encore très proche, celui-là ou un autre d'ailleurs.
Mais il n'y en aura pas d'autre. On a affaire à un gros mâle. Il ne tolérerait pas la présence d'un autre, pas même de femelle à cette époque-ci de l'année.
Nous marchâmes quelques minutes encore. Les mouches étaient infernales et la chaleur insupportable.
Voilà, c'est ici qu'on a trouvé les jambes.
Je repérais quelques touffes d'herbe qui auraient pu être agitées récemment, mais enfin, ça voulait rien dire.
Ma théorie, c'est que le croco s'est emparé de lui soit dans le ruisseau, soit entre le ruisseau et ses vêtements. Comme c'est ici qu'on a trouvé les jambes, il est forcément passé ici. Il devait se diriger vers le trou d'eau le long du ruisseau. Alors, à mon avis, comme le cours fait des méandres, si on suit une ligne droite entre ses habits jusqu'ici, on tombera sur le ruisseau et on pourra le suivre jusqu'à ce qu'on trouve les trous d'eau.
Il ne me demandait pas mon avis. Il m'expliquait comment il procédait. Nous entrâmes dans les broussailles. Jacques marchait vite, sans manifester de crainte apparente. Mais il avait son fusil à la main et le doigt proche de la sécurité. Il avait raison, comme c'est habituellement le cas avec ce genre d'homme. Et nous croisâmes bientôt le ruisseau. Nous avancions en file indienne, les pieds dans l'eau, avec Jacques en tête, le fusil prêt à tirer, suivi par moi, inquiet, et par les deux civils qui avaient resserré l'écart entre nous. Jacques se tourna brusquement et leur demanda si leur fusil était armé. L'un admit que oui.
« Bon, désarmez-le et portez vos fusils sur l'épaule. »
Je n'avais pas songé à m'inquiéter d'être suivi par deux hommes avec des fusils chargés, mais je me rendis compte que j'aurais dû... et fut reconnaissant envers Jacques d'y avoir songé. Une vingtaine de minutes plus tard, le ruisseau s'élargit en une mare d'eau stagnante, bordée de pandanus et de plusieurs beaux eucalyptus. La surface de l'eau était couverte d'algues vertes qui avaient été dérangées.
« Il se pourrait bien qu'il soit là !» Faites le tour de la mare pour repérer les traces de crocodiles.
De nombreuses touffes d'herbe avaient été écrasées par quelque chose. Mais il y avait également des excréments de buffles et de cochons sauvages.
S'il est dedans, il a peut-être une cachette sous la rive. C'est ce qu'ils font avec le bétail. Ils l'emportent dans leur trou et le laissent pourrir un peu. Mais cette mare me paraît un peu petite pour une tanière permanente. S'il s'y trouve, il s'est glissé sous l'eau dès qu'il nous a entendus approcher.
J'observais l'eau immobile de la mare en me demandant si, sous cette surface opaque, un reptile énorme se prélassait avec un homme dans le ventre.
On plastique quand même,
annonça Jacques en fouillant dans son sac. Sa technique était on ne peut plus simple. Il plaçait quelques bâtons de dynamite avec un détonateur dans un récipient. Puis, il le reliait par un fil à la manette du détonateur, actionné par une petite pile. Il lança le récipient au centre de la mare en débobinant le fil.
« On tiendrait à peine debout. Ça va faire un sacré boom dans de l'eau si peu profonde. On ferait mieux de s'éloigner un peu.
»« L'explosion va-t-elle le tuer ?»
« Oh, probablement. Ça devrait l'aplatir et l'étriper. Si... Oh, et puis s'il n'est pas mort, il n'en sera pas loin. »«
Mais pas de risque qu'il se précipite hors de la mare ?»«
Oh, ok. Il sortira peut-être la tête après quelque temps pour jeter un coup d'œil et voir s'il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Mais ça m'étonnerait qu'il veuille encore casser la croûte. » Il doit simplement vouloir qu'on lui fiche la paix.
Les commentaires de Jacques me semblaient parfois terriblement insensibles. Mais j'imagine qu'il n'avait pas d'autre moyen de faire son boulot. Nous reculâmes tous de quelques pas et j'appuyais sur le détonateur. Pour un sacré boom, ce fut un sacré boom. Un énorme jet d'eau boueuse et d'algues s'envola vers le ciel. Une rive s'affaissa et un grand eucalyptus s'effondra lentement dans la mare. Deux gros poissons-chats, un barramundi et une anguille se tortillaient dans l'herbe à nos pieds et nous étrangions trempés d'eau relamboisie. Et il n'y avait aucune trace de crocodile.
Il me semblait bien aussi que cette mare était un peu juste pour lui. On essaiera plus loin. Ah, et puis j'avais mis trop de plastique. C'est dur, d'oser correctement avant de connaître la profondeur de la mare. Et on peut même pas jauger. Il y a trop de trous et de tunnels sur les côtés.
Ben, il est peut-être pas resté mort là-dessous. Enfin, il peut pas être resté mort là-dessous.
Oh non! S'il était dans la mare, il flotterait à la surface. S'il était dans une grotte de la rive, le plafond aurait explosé. Le plafond des grottes est toujours au-dessus de la surface de l'eau.
Il me sembla que se balader sur les rives d'une mare qui contenait des cavernes terreuses abritant des crocodiles à un poil de nos pieds, n'était pas d'une prudence extrême. Mais Jacques ne montrait aucun signe d'inquiétude et il était à la fois avisé et compétent. La mare suivante n'était qu'à une dizaine de minutes de marche. Elle était bien plus étendue, au milieu d'une clairière, avec seulement deux ou trois arbres sur les rives. Nous trouvâmes encore des traces et des excréments. La mare avait été dérangée.
Ah, voilà qui ressemble plus à ce que je cherche. L'eau doit être profonde. On va faire péter une bonne charge.
Il se mit à empiler des bâtons de plastique dans le récipient en métal. Mais est-ce que ça le tuera s'il est dans une grotte, demandai-je.
Oh oui, pression incroyable se dégage sous l'eau. Le problème, c'est qu'on tue tout ce qui est dans la mare. Mais bon, on n'a pas le choix.
Il renvoya le récipient au fond de la mare.
et débobina une bonne longueur de fil pendant qu'il coulait.
Oh, c'est sacrément profond!
Je m'aperçus alors que les civils n'avaient pas prononcé un mot depuis notre départ. Sauf pour répondre à la question de Jacques sur leurs fusils. Debout d'un côté de la clairière, leurs âmes prudemment dirigées vers le sol, ils observaient en silence. Nous nous retirâmes tous les quatre à l'orée de la clairière et Jacques activa le détonateur. L'explosion ne fut pas aussi assourdissante que la première, même si la charge était supérieure, car l'eau était bien plus profonde. Le jet était très large, mais il se maintint à hauteur d'homme. La surface entière se fendit par petites vagues agitées. La vase verte se déchira et des poissons morts ou blessés se mélangèrent au tourbillon de débris végétaux. Nous nous approchâmes de la rive et observâmes l'eau de se calmer. La silhouette d'un reptile gigantesque apparut dans les ténèbres. Nous ne vîmes d'abord qu'une gueule énorme, quatre pattes tendues et une queue bizarrement difforme. On ne distinguait qu'une forme fantomatique juste sous la surface de l'eau tourbillante et boueuse. J'entendis le bruit des trois fusils qui s'armaient.
Attendez ! Attendez qu'ils soient complètement sortis !
La créature était prête à émerger quand une bulle immense fit irruption, accompagnée d'un bruit de roue abominable. Une rafale d'haleine fétide de crocodile nous frappa avec une telle violence que nous raculâmes en cœur. Puis Jacques s'approcha du bord de l'eau, son arme à la main. La forme disparut. Jacques se mit à tirer. Les deux civils se joignirent à lui et une vingtaine de coups de feu mitraillèrent la silhouette qui disparaissait doucement sous l'eau.
Inutile ! Les balles ne l'auront pas sous l'eau !
Putain ! Quelle bête énorme ! Dit l'un des civils. 20 pieds au bas mot !
Ce qui, je peux bien vous le dire puisque je me suis converti au système métrique, représente environ 6 mètres.
Son cuir vaut une fortune.
Il est vivant, demandai-je.
Ah, j'aurais pas cru, observa Jacques. Pas avec une telle charge de plastique. Mais il aurait pas dû couler. Il doit être mourant de toute façon. Il a sans doute reçu quelques balles en plus de l'explosion.
Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Une nouvelle explosion?
Oh! Qu'est-ce que je ferais s'il me restait du plastique? Mais j'ai tout mis dans la dernière charge. C'est pas malin, finalement. Mais j'étais tellement sûr qu'il était là, je voulais pas le rater.
Et tu penses que les coups de feu ont endommagé le cuir?
Demanda un des civils à son camarade.
Oh, ben, pas les miens, hein, je visais la tête. Ben, moi aussi, mais c'est pas ces plombs qui pouvaient beaucoup l'endommager.
Leur conversation se déroulait comme si Jacques et moi étions absents ou incapables de les entendre.
Bon, eh ben, s'il est pas mort, il pourrait rester planqué un sacré bout de temps et se coincer dans quelques racines et y mourir sans remonter à la surface.
Jacques ajouta.
Je ferais mieux d'aller chercher un peu plus de plastique à Wepa.
Ben, ça vaut pas le coup d'attendre un peu de voir s'il remonte, proposai-je.
Oh, peut-être qu'il remontera, bien sûr. Mais peut-être qu'il remontera pas. On peut passer la nuit à attendre, mais je serai rentré de Wepa dans 2 ou 3 heures. Et comme ça, on est presque certain de l'avoir avec une autre charge de plastique. Non, j'y vais.
C'était sans appel. Il se tourna vers les deux civils.
Écoutez-moi, vous deux. Je vais aller chercher plus de plastique à Wepa.
De la même façon qu'il s'était parlé, comme si nous n'existions pas, Jacques présumait qu'il n'avait pas compris un traître mot de ce qu'il venait de dire. Ils acquiescèrent d'ailleurs comme si l'information venait de tomber.
Je veux que vous attendiez ici. Si le croco remonte, hissez-le sur la berge, tirez-lui dessus si vous le croyez vivant. Hein ? Compris ?
Ouais, bien sûr.
Autre chose. Ne les ventrez pas. Si votre pote est à l'intérieur, je dois être présent quand il sera ouvert, vous comprenez ?
Ouais, bien sûr.
Soyez sûr d'en être bien sûr. Si le croco remonte, ne l'ouvrez pas avant mon retour. Sinon, je vous le ferai payer cher.
Ouais, bien sûr.
Jacques me fit un petit signe de tête et nous repartîmes le long du ruisseau. Je le trouvais attentionné de présumer que je préférais l'accompagner plutôt que de passer ces quelques heures avec les civils. Il avait raison, d'ailleurs. Jacques me déposa à mon camp et vint me rechercher au milieu de l'après-midi.
J'ai pris une double charge, pour être tranquille. Ça vous ennuierait de porter un des sacs ?
Oh, ben, pas du tout. Au campement des civils, nous chargeâmes les explosifs, qui n'étaient pas particulièrement lourds. Puis Jacques sortit de son camion un épais sac en plastique qu'il drapa sur ses épaules. Je ne lui demandais pas à quoi il servirait. Il prit son fusil, et maintenant qu'on savait où on allait, nous marchions d'un pas vif. Mon instinct d'écrivain montrait quelques signes de faiblesse. Je voulais toujours voir le crocodile, mais rien de plus. Mon imagination me perturbait suffisamment, mais le malaise qu'elle suscitait n'était rien en comparaison avec l'horreur et le choc qui nous attendaient dans la clairière autour de la mare. Le crocodile était sur la berge, complètement écorché. L'énorme gueule préhistorique était intacte, les crocs souriants et les yeux malveillants mi-clos, mais le reste des 6 mètres de corps n'était que blanc, dénudé et graisse luisante. Il manquait la moitié de la queue, perdue des années auparavant, au cours de quelques bagarres reptiliennes. Indemne, la créature aurait été grotesque. Dépouillée de son armure, elle était obscène. Et le plus obscène du tableau était la bosse blanche le long de son estomac. La peau était tendue sur le sol et semblait 2 fois plus grande que le corps auquel elle avait appartenu. Les civils, assis près de la tête du crocodile, fumaient et observaient Jacques avec une nonchalance affectée.
Quelle paire de salopards finis ! Je vous avais pourtant dit de ne pas le toucher.
Ah ben, vous nous avez dit de ne pas l'ouvrir, hein ? Et on ne l'a pas ouvert. On a simplement pris le cuir. Eh, le cuir, ça représente beaucoup d'argent. Hein. Et puis, il n'y a rien d'illégal à prendre la peau d'un croco mort. C'est vous qui l'avez tué, pas nous.
Jacques les fusilla du regard. Son habituel détachement professionnel était manifestement ébranlé.
Nom de Dieu! Ah! Quand je pense que votre pote est sans doute à l'intérieur de cette bête.
Les civils haussèrent les épaules.
Ben, on vous a écouté. On l'a pas ouvert. On l'a pas ouvert.
Jacques les dévisagea longuement sans parvenir à trouver un mot pour les qualifier.
Ouais, très bien. Finissons-en.
Et tirant un poignard, il s'avança vers le cadavre du crocodile. Je me contenterai de vous dire que le pote, eh ben, il était bel et bien à l'intérieur.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais dire un grand merci à Stéphane qui était derrière la vitre et à vous, je vais vous dire, comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.